au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360. J'espère que vous allez bien. On va parler automobile au cours des deux prochaines heures. Je ne serai pas seul. Marc Bouchard, Philippe Lagu sont là et ont hâte de vous parler. Juste avant, je vais également vous dire que je vais avoir comme invité, un petit peu plus tard, on va parler avec Maxime Dubois du CA Québec. On va aussi parler d'opération Nez Rouge à l'émission un petit peu plus tard. Ça débute bientôt, alors c'est important d'en parler de cette opération qui est fort intéressante. À chaque année que ça revient et... Quelle belle cause. Quelle belle cause, ça vaut la peine d'en parler. Mais avant, écoute, on est en plein milieu des festivités du Vendredi fou. En avez-vous profité? Avez-vous profité du Vendredi fou pour changer de véhicule? Avez-vous trouvé le rabais miracle qui a fait en sorte que vous avez changé d'auto? Sinon, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme rabais? Un taux d'intérêt plus bas? Vous auriez aimé avoir des termes un peu allongés, vous auriez aimé qu'on soit un peu plus agressif au niveau des incitatifs à l'achat, comme un gros 5 000 $, 10 000 $. Qu'est-ce qui vous aurait attiré chez un concessionnaire pour changer d'auto? Moi, j'ai trouvé les constructeurs très tranquilles, très, très tranquilles. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que mes collègues en pensent. Salut Marc!
Salut mon cher!
Comment ça va?
Eh, hey, écoute, ça a l'air d'aller mieux que toi, je te dirais, t'as une petite voix de 1976, Daniel.
Oui, disons que depuis hier, ce matin, je ne parlais pas du tout, j'étais paniqué. C'est déjà mieux.
Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, les manufacturiers ont été assez discrets cette année, lors du Vendredi fou, du fameux Black Friday. Et la question, c'est, comme tu l'as dit, est-ce que vous en avez profité? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous regardez les incitatifs puis les programmes? Parce qu'il y en a des tonnes, généralement, et est-ce que vous les connaissez? Je pense que beaucoup de gens savent pas qu'ils peuvent économiser de l'argent, souvent en faisant juste une petite demande supplémentaire. Alors, ça vaut la peine d'en parler, je pense.
Alors, j'espère qu'on va en parler tout au long de l'émission. Il y a Philippe Lagu aussi qui est là. Salut, Philippe!
Salut, Daniel!
Comment ça va?
On va essayer de parler le plus possible pour que tu parles le moins possible, parce qu'on va essayer de t'épargner. Là, je trouve que tu fais pitié.
Ça, c'est du travail d'équipe.
Pauvre petit loup. Non, mais vraiment, là, tout est raillé, c'est pas drôle.
C'est pas drôle. Caroline. De quoi tu vas nous parler?
On va parler de BMW aujourd'hui. Hein? Gros constructeur qui est dans le top 10 mondial maintenant. C'est quand même pas rien là, pour un fabricant qui est surtout connu pour ses voitures de luxe, mais on l'oublie trop souvent, qui est quand même un généraliste aussi quelque part. Il y a quand même des modèles beaucoup plus abordables, surtout sur le marché européen. On va parler de l'histoire de BMW et on va parler sans conteste de leur modèle le plus spectaculaire à l'heure actuelle. Puis je pense que je m'avance pas trop en disant un des plus spectaculaires de l'industrie automobile à l'heure actuelle. Une voiture que tu connais parce que tu l'as conduit toi aussi, la BMW i8.
Wow! Il y a des choses à dire sur cette voiture-là.
Oh, voiture sport hybride rechargeable. C'est pas banal, là.
Non. Et on va reprendre le i, puis on va le décliner. Hein. Vous savez, BMW, c'est les champions. Il y a déjà la i3, puis il va en avoir d'autres i.
Oui, il y a la i9, entre autres, qui s'en vient, je pense. i7.
Et i5.
i5, bon.
Et messieurs, si vous permettez, au salon de Los Angeles cette semaine, on va aussi dévoiler la i8 Spider, donc la i8 version cabriolet, mon cher.
Wow!
Ah, voilà.
Ça risque d'être spectaculaire. Merci, on se reparle un peu plus tard, Philippe. Alors, si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez nous parler de qu'est-ce que vous avez magasiné, question automobile, durant le Vendredi fou, bien sûr, je vous donne les numéros.
Si vous m'avez fait un cadeau, c'est pas nécessaire de me le dire tout de suite.
Voilà. Alors, pour les gens de Montréal, dans 514-790-9850. Pour les gens de Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850 ou auto360 à cogecomedia.com. On fait une première pause et au retour, on vous parle.
Au réseau Cogeco, auto360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto360.
Auto360, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Et oui, juste avant de parler à Olivier et Yvan, on vous demande un petit peu de patience. On va parler à Marc pour des nouvelles de l'industrie, Marc.
Ouais, une petite nouvelle, comme tu sais, la semaine passée, on a parlé beaucoup des camions et des camionneurs. Alors, quand j'ai lu ça cette semaine, j'ai pensé, oui, à ceux qui nous ont appelés la semaine passée, c'est Ford Brésil qui a découvert une innovation, une casquette qu'on appelle le Safe Cap, qui est destinée à s'assurer que les conducteurs de camions ne sont pas trop fatigués. Alors, c'est une casquette que le chauffeur de camion porte, tout simplement. Il y a des capteurs à l'intérieur. Les capteurs, bon, en conjugaison avec l'ordinateur de bord, sont capables de savoir jusqu'où ta tête se penche, quelle sorte de mouvement tu donnes au camion. Et si on sent que t'es trop fatigué, il y aura d'abord une vibration, par la suite un son, et par la suite une grosse lumière qui va t'éblouir, histoire de te réveiller comme il faut. J'espère que ça servira pas à nos auditeurs, mais c'est le genre de choses qui peut effectivement garder l'attention du chauffeur sur la route. C'est pour le moment un prototype, mais Ford est en train de le breveter et on espère le commercialiser. Le seul bémol, c'est que j'ai regardé les photos, et Daniel, je t'en ai montré une. J'espère qu'ils vont aussi engager un designer, parce que je t'avoue que le look de la casquette actuellement est pas spectaculaire.
C'est laid pas à peu près, cette casquette-là. Ça a pas de sens. Mais il y a déjà de la biométrie dans les véhicules. Tu as déjà la reconnaissance faciale. Ils analysent les yeux et tout ça. Alors, le fait d'avoir la casquette, je ne sais pas trop. On peut l'intégrer dans les camions poids lourds.
Oui, mais c'est parce que la casquette, en fait, c'est un système indépendant. Donc, tu pourrais ultimement ne traîner que la casquette et l'utiliser dans n'importe quelle voiture, dans n'importe quel véhicule. Tu n'es pas obligé de rien installer dans le véhicule lui-même.
Ah ouais,
donc, c'est un système portatif qui serait probablement pas mal moins coûteux que les systèmes électroniques embarqués, en espérant qu'ils vont en avoir de différents modèles, parce que je t'avoue que je suis d'accord avec toi au niveau du look, disons.
Ah, que c'est laid, mais ça vibre, ta casquette qui vibre et tout. C'est assez spécial, assez spécial. Une question via auto360 à cogecomedia.com. Marc, on nous demande, c'est quoi le correcteur d'assiette? On attend ça dans les publicités et il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi un correcteur d'assiette. C'est un système pour maintenir la voiture à niveau.
Effectivement, c'est simplement des suspensions. Généralement, ça va être hydraulique. Donc, on va tout simplement s'assurer que la voiture est au niveau. Ça assure un meilleur confort. C'est souvent utilisé aussi en mode hors-route pour assurer, là, hors-route léger, pour assurer un plus grand confort et un plus grand accès. Ça vient généralement avec des suspensions adaptatives, là, qui vont varier aussi en fonction de la vitesse.
Et voilà, on a Olivier en ligne. Bonjour, Olivier.
Bonjour, ça va bien?
Ouais, papi.
j'ai entendu votre intro sur BMW.
Oui.
Moi, j'hésite présentement deux véhicules, puis c'est pas nécessairement la même gamme. Mais je crois qu'il y en a un qui, côté prix, pourrait faire la job, si on veut. J'hésite entre la nouvelle Q60 qui développe 400 chevaux, puis la BMW M4. Mais évidemment, là, la BMW M4 est beaucoup plus chère.
Ouais.
Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus.
Vous voulez garder longtemps? C'est un achat, une location?
Ça va être probablement une location.
Une location?
Oui.
Écoutez, si vous pouvez vous permettre financièrement parlant la M4, j'ai de la misère à vous suggérer la Q60, qui est toute une voiture, remarquez bien, là. J'ai rien contre Infiniti, sauf que BMW M4, financièrement parlant, si vous pouvez vous le permettre, vous allez avoir toute une voiture entre les mains. Le look, le style et les performances, ça va être assez difficile à battre.
Sauf que c'est un autre monde, hein.
Bah oui, c'est
pas pareil. On parle pas de la même voiture, là. La Q60, ça demeure d'abord un coupé confortable. Bon, celle à 400 chevaux, c'est la Red Sport à laquelle on a modifié le moteur, mais ça demeure un coupé confortable. La M4, faut que vous soyez prête à vous faire brasser un petit peu. Par contre, quel plaisir de conduite. Évidemment, vous aurez jamais ça chez Infiniti, là.
C'est ça. Donc, c'est plus une voiture de course versus une voiture de rue, confort, sport, luxe et performance.
Parce qu'il ne semblait pas avoir, tu sais, j'ai regardé la série 4, mis à part la M4. Si on n'y va pas avec la M4, j'ai l'impression que la Q60 fait très bien la job là, par rapport à la série 4 de BMW.
Oui, je suis d'accord avec vous. Vous allez avoir une belle voiture, vous allez avoir des performances, puis à la limite, elle va être plus confortable au quotidien.
OK. Mais merci.
Juste pour préciser que BMW, c'est une voiture qui est d'abord tournée vers le pilote, alors qu'Infiniti est une voiture qui va satisfaire tous ses occupants. C'est ça la grande nuance entre les deux véhicules, en fait.
Merci beaucoup, Olivier. Yvan est en ligne. Bonjour, Yvan.
Bonjour, monsieur. Moi, question de l'incitatif pour acheter des voitures, je trouve qu'ils ne parlent pas assez des voitures électriques. Ils n'ont pas d'incitatif pour... Ils veulent promouvoir les voitures électriques, mais ils ne donnent pas rien de cadeau, ils ne donnent pas spéciaux, le gouvernement non plus. Il n'y a pas quelque chose qui pourra faire les compagnies pour aider un peu plus.
Ben là, le gouvernement fait sa grande part pour les voitures électriques, même que je trouve qu'ils en font trop pour les voitures électriques, parce que le gouvernement donne quand même jusqu'à 8 000 $ pour une voiture 100% électrique. Je pense que ça, c'est un bon incitatif. Par contre, je suis d'accord avec vous, les constructeurs, les manufacturiers ne poussent pas beaucoup dans les promotions les voitures électriques pour les annoncer. Une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'inventaire.
Ben, c'est ça le problème. Il y a pas. Je parlais. Bon, ici, en fin de semaine, c'était le salon de la voiture électrique à Saint-Hyacinthe. Je suis allé faire mon tour à l'ouverture vendredi. Et quand tu parlais aux représentants des différentes compagnies, c'est tout ce qui se disait. Il y a 3, 4, 5 mois d'attente pour l'achat d'un véhicule électrique. Alors évidemment, il y a déjà l'incitatif, comme Daniel le dit, à l'achat. Il y a aussi 50% du financement de la borne que vous allez installer chez vous pour l'électricité. Alors, c'est déjà des incitatifs financiers généreux. Et là, évidemment, il n'y a plus d'inventaire, donc c'est un problème.
Et il y a aussi l'incitatif de 4 000 $ pour les voitures d'occasion qui ont été immatriculées au préalable hors Québec, mais quand même, ça reste un incitatif. Mais vous avez raison, on pousse pas très fort. On a l'impression que c'est le gouvernement qui fait le travail. Le gouvernement parle beaucoup de voitures électriques, parle de voitures électriques, et quand arrive dans l'industrie, on annonce des camions, puis on annonce les camionnettes, puis on annonce du sport utilitaire, puis on n'annonce pas nos véhicules électriques. Vous avez raison.
Il n'y en a pas, comme vous dites, il n'y en a pas sur le marché, mais il n'y en a pas 3-4 mois, 5-6 mois d'attente.
Bien là, il commence à avoir des volts un peu en inventaire, il commence à avoir quelques bolts qu'on peut aller chercher ici et là. Évidemment, là, que si on veut chercher, se trouver une Prius Prime, c'est un peu plus difficile. Si on veut se trouver d'autres véhicules du côté de chez Hyundai aussi, mais c'est ça, c'est encore limite. Il y a du Kia Soul. Kia Soul, je pense qu'il y en a pas mal, mais il répond pas à tout le monde. La Leaf répond pas à tout le monde par son 100 quelques kilomètres, 160.
Je sais même pas s'il reste des Leafs non plus, parce que la nouvelle arrive. Alors, je pense pas que les Leafs soient vraiment très populaires actuellement. Là.
La nouvelle marque, on le sait-tu finalement, son autonomie? Là?
Il y avait on dit 241. On dit 241 kilomètres. C'est officiellement l'annonce faite par Nissan. Okay. Donc, c'est ce qui devrait être, mais on nous dit que l'an prochain, dans 2 ans, il y aura une batterie plus puissante et qu'elle atteindra d'autres sommets dont on n'a pas encore parlé cependant. Donc, on va attendre.
Pourquoi ils sont en train de faire comme un dynamo? Plus tu roules, plus ça charge les batteries, au lieu d'avoir comme les autos hybrides, c'est quand tu freines, ça charge les batteries. Il n'y a pas, je suis pas ingénieur, voilà. Il faut savoir, puis mettre des toits solaires qui peuvent charger les batteries, qui est quelque chose qui chargera les batteries à mesure. Il n'y a pas moyen de.
Voilà une bonne question, Marc.
Ouais, ben en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, le toit solaire, ça existe déjà. Le problème, c'est qu'actuellement, les capteurs solaires sont pas assez efficaces. À la limite, c'est capable d'aider à contrôler certains systèmes électriques à l'intérieur, la radio, ces trucs-là, mais c'est pas assez puissant pour charger la batterie. Deuxièmement, l'autre, c'est une question purement physique. La fameuse dynamo en question, faut qu'elle roule sur un moteur à essence pour être assez puissante pour charger la batterie. C'est pas suffisant de récupérer. On peut pas créer plus d'énergie en dépensant, en fait. Donc, c'est le problème. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'on récupère l'énergie du freinage, parce qu'on n'a pas besoin de toute l'énergie. Donc, on est capable d'en emmagasiner, mais quand on roule, ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas, la friction. C'est tout simplement une question de friction, puis on devrait créer trop de friction. Vous vous souvenez de dynamo sur nos vélos, on avait de la misère à pédaler là, pour faire éclairer une simple lumière. Alors, créer suffisamment d'électricité pour la batterie, ça prendrait trop de friction, alors c'est impossible. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir appelé. Bien gentil. Alors, si vous voulez faire comme Yvan ou encore Olivier pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330, ailleurs 1-866-790-9850. Oui, bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Que pensez-vous de la Giulia Alfa Romeo, de la gueule, cette voiture?
Oui, Marc, t'as tombé. Je crois que Marc en conduit une en ce moment.
Exactement, c'est la voiture que je conduis cette semaine. C'est une voiture qui a... Écoutez, j'ai jamais été si populaire sur la route. Là. Les gens me lèvent le pouce régulièrement parce qu'effectivement, c'est une voiture absolument magnifique qui se comporte très bien. Il faut faire attention. La version que moi, je conduis, c'est la version luxury, la version la plus équipée, si on oublie la Quadrifoglio. Là. Ouais. Elle est quand même un peu chère, mais c'est toute une voiture, effectivement. Mon bémol, c'est toujours la fiabilité, là, dont on n'est jamais certain avec Alfa Romeo. Mais
moi, ça m'inquiète pas.
Quelle voiture?
Ça m'inquiète. Ça m'inquiète pas la fiabilité. Le style est là. L'intérieur, j'aime beaucoup de la façon qu'on l'a fait à l'intérieur. C'est une voiture qui se compare facilement là, au BMW et au Mercedes parce que c'est directement ces voitures-là qu'on veut viser. Sur la route, là, le plaisir de conduire est là. Alors, c'est l'alternative aux Allemandes directement.
Ouais. Mais ne touchez pas à la Quadrifoglio qui est vraiment trop pour ce qu'elle propose. Les suspensions sont trop rigides, c'est pas confortable. C'est vraiment trop de compromis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance, là, mais ça demande trop de compromis à l'intérieur pour moi. Même le freinage est complètement fou avec la Quadrifoglio. Alors c'est presque une voiture de course. Pour moi, c'est trop. Je me suis contenté de la Luxury. Ça fait une semaine que je roule avec et je vais pleurer en la ramenant la semaine prochaine.
Non, mais voilà. C'est une voiture qui se démarque sur la route. En effet, les gens, ça capte l'attention de tout le monde. Moi, j'ai une Mercedes que je veux changer pour l'Alfa Romeo. Et c'est dans les 60 000.
Ça part à 53, 54, puis on peut aller jusqu'à 62, 63 maximum, je pense.
Oui, oui. Merci. Non, elle est vraiment spéciale. Merci.
Bon, parfait. Merci. On a Charles en ligne. Bonjour, Charles.
Oui, bonjour. Moi, j'ai présentement une Lexus RX 350 que j'adore,
ouais.
Mais je voudrais la changer, puis j'aime pas beaucoup le nouveau look de la RX 350. Je trouve que le devant est un petit peu agressif. j'en gardais un peu la Audi Q5. Quel serait votre avis sur les deux modèles?
Ben effectivement, Lexus ont tellement eu le complexe d'anonymat qu'ils ont complètement fait l'inverse. on a chialé tellement souvent que les Lexus étaient anonymes puis qu'il y avait pas de présence et tout ça, que là ils sont arrivés avec une immense calandre là, c'est type sablier là ou chute. Je sais plus de quel
sablier.
C'est sablier. C'est sablier.
Sablier,
hein?
Autres, oui.
Sablier qui disent. Alors c'est vrai que c'est très très présent, mais pour ce qui est du reste du véhicule là, c'est impeccable. Fiabilité mécanique. Il n'y a pas vraiment le plaisir de conduire, mais quand même, on a amélioré un petit peu cet aspect. L'aménagement intérieur, il y a peut-être le système d'exploitation, mais ça reste un des meilleurs véhicules de ce segment. L'autre côté, bien, on a complètement modifié le Q5. Nouvel aménagement intérieur. Lui aussi passe sur une nouvelle plateforme, puis c'est celle du Macan et un autre véhicule chez Volkswagen. Bref, tout ce créneau-là. C'est le Tiguan chez Volkswagen qui va chercher la même plateforme. Alors, bloc instrument digital, j'adore le nouveau Q5. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, ils ont de la misère à en avoir en inventaire. C'est aussi tout un véhicule. Par contre, semble un peu plus compact que le RX.
Ouais, au point de vue intérieur, tu veux dire le confort intérieur pour les 5 passagers, mettons?
C'est ça. Si vous êtes souvent 5 à l'intérieur, vérifiez bien votre besoin en espace. Ça, c'est bien important.
Et pour information, le RX va être lancé la semaine prochaine au Salon de Los Angeles en version 8 passagers. Donc, un RX allongé, mon cher.
J'ai hâte de voir ça. Okay. Alors, bon magasinage. Vous avez deux bons véhicules dans les mains. Il s'agit de savoir lequel répond mieux à vos besoins.
Au niveau des prix, c'est pas mal la même chose?
Ben oui, ça va jouer selon l'équipement à peu près pareil parce que c'est deux compétiteurs, évidemment, un avec l'autre. Côté motorisation, au niveau de la puissance, vous allez voir, vous avez le V6, vous avez le superbe V6 dans le Lexus qui va vous donner une douceur. Vous allez vraiment comprendre la différence entre les deux. Si vous optez pour le petit moteur turbo, ça va faire le travail dans le Q5, mais il se comporte un peu différemment. Merci d'avoir appelé, bien gentil. On s'arrête et au retour, Philippe Lagu.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour et Philippe se joint pour faire reposer un petit peu ma voix. Alors,
j'allais te le dire. C'est correct que j'ai du stock en masse, alors tu vas pouvoir prendre une petite pause, Daniel.
Ben oui, puis en plus, ça va être vraiment intéressant de t'entendre parce que là, c'est l'histoire de BMW.
Oui, puis je pense que c'est une marque que tu aimes bien. Hein? De toute façon, je pense que les amateurs, il n'y a pas grand amateur d'automobile qui n'aime pas beaucoup BMW. Juste une petite chose avant qu'on commence. J'invite les auditeurs et les auditrices à aller sur ma page Facebook parce que vous allez voir plusieurs modèle dont il va être question là-dedans. Puis si vous voulez avoir une bonne idée aussi de l'évolution de BMW, tout est là. Alors, pour situer les gens, d'abord, on en parlait en ouverture, Daniel, BMW est aujourd'hui le 9e constructeur mondial avec une production qui se situe autour de 2,5 millions de véhicules par année dans des usines en Allemagne, évidemment, en Chine, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Mais tout ça a commencé, il faut le rappeler, hein, par des avions et plus précisément par des moteurs d'avions. Parce que BMW, officiellement, là, c'est fondé en 1916 à Munich, en Bavière. Ça vient de la fusion de deux compagnies de mécanique, dont l'une qui fabrique des moteurs d'avion. Et ça, ben, faut rappeler que c'est une industrie qui est naissante, hein, en 1916. On est au premier balbutiement de l'aviation. On répète souvent que le logo de BMW représente une hélice d'avion, ce qui est pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux non plus. C'est qu'à l'origine, l'emblème de la marque reprend le cercle noir du logo de Karl Rapp, qui est le fabricant de moteurs d'avion, là, qui est un des fondateurs de BMW, avec au centre le bleu et le blanc, qui sont les couleurs de la Bavière. Ah. Et c'est seulement 12 ans après la création de l'emblème que BMW va faire un lien avec l'hélice d'un avion sur une affiche publicitaire. Alors, le blanc, à ce moment-là, symbolise l'hélice et le bleu symbolise évidemment le ciel. Il est donc faux d'affirmer que l'hélice est à l'origine du logo. C'est venu après. Puis du côté marketing chez BMW, ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire, c'est ça. Fait qu'ils ne demandent pas non plus, tu sais.
Ben oui.
Et en 1916, ben, on est aussi au milieu de la première guerre mondiale, oui, qui va se terminer en 1918. Et ben, on le sait, l'Allemagne est vaincue. Et l'année suivante, le traité de Versailles lui impose des sanctions et des lourdes sanctions, hein. Des dommages punitifs, des restrictions militaires et commerciales. Et parmi ces restrictions, il y a l'interdiction de fabriquer des moteurs d'avion. Alors, BMW va se convertir à ce moment-là aux moteurs de moto et ensuite carrément aux motos. Ils vont assembler des motocyclettes, ce qui va non seulement assurer la survie de BMW, mais va aussi élargir ses horizons, son champ d'activité. Et en 1928, BMW rachète le constructeur allemand Dixie, qui va ensuite fabriquer des Austin 7, des petites voitures anglaises qui vont fabriquer sous licence. Et la production de moteurs d'avion, elle, va reprendre dans les années 30. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, BMW commence même à développer un moteur à réaction qui est considéré comme le premier turboréacteur moderne. La Deuxième Guerre mondiale, ben, c'est aussi un œil au beurre noir pour BMW. Le Deuxième Conflit mondial va laisser des traces qui vont mettre beaucoup de temps à s'effacer. Comme beaucoup d'industries allemandes, BMW va collaborer à l'effort de guerre, donc avec le régime nazi. Et Günther Quandt, qui dirige alors BMW, est l'ex-mari de Magda Goebbels, l'épouse du tristement célèbre ministre de la propagande. Il est d'ailleurs le père de son premier enfant, le seul des enfants Goebbels qui a survécu, hein, faut le dire, parce qu'on sait que Magda Goebbels a tué ses 6 enfants dans le bunker à la fin de la guerre. Évidemment, on peut pas reprocher ça à Günther Quandt, là, parce que, bon, Magda Goebbels était avec lui avant qu'elle rencontre Joseph Goebbels. Par contre, BMW a fait travailler au moins 50 000 prisonniers de guerre et des prisonniers de camps de concentration dans ses usines pendant la guerre. Puis il est aussi important de mentionner que BMW a fait son acte de contrition, a fait amende honorable, là, en participant avec plusieurs groupes industriels allemands, là, à un fonds d'indemnisation des victimes du travail forcé sous le régime nazi. Alors, on a aussi reconnu ce qu'on avait fait, là, et comme je te dis, on a fait amende honorable de ce côté-là. Puis BMW a payé le prix aussi, parce que là, à la fin de la guerre, en 1945, l'usine de Munich qui a été bombardée est presque complètement détruite. BMW va reprendre lentement ses activités industrielles, d'abord en produisant des appareils électroménagers. Ensuite, on reprend la production de motos et la production d'automobiles va reprendre, elle, en 1952. Les années 50, Daniel, c'est une décennie assez laborieuse pour BMW. Ces berlines, là, les 501 et 502, sont tout sauf belles. Tu peux le voir sur ma page Facebook.
Oui, j'ai vu les photos. Ça, c'était pas une belle période.
Non, pas vraiment. Puis, elles ont pas non plus le raffinement des Mercedes et encore moins le prestige de Mercedes. Et BMW va même frôler la faillite avec la 507, qui, elle, est une voiture magnifique, qui est très recherchée aujourd'hui par les collectionneurs, mais qui, à l'époque, est un échec commercial. Hein. Non seulement BMW perd de l'argent avec chaque modèle construit, mais il y a des retards dans la livraison et elle ne se vend pas. C'est un échec commercial. À l'autre extrême, BMW produit aussi l'Isetta, qui est une micro-voiture, qui est en fait une moto avec une carrosserie. Là.
Ouais.
L'Isetta, ben, c'est une petite voiture italienne, mais qui est assemblée sous licence par BMW. Et ça, c'est un succès commercial. 150 000 exemplaires vendus. Le problème, c'est que l'Isetta se vend bien, oui, mais sa marge de profit est très mince. Et les autres modèles de BMW ne se vendent pas, soit parce qu'ils sont trop chers, comme la 507, soit parce qu'ils sont, comme on dit, passés date. Et le résultat, ben, c'est qu'en 1959, BMW est au bord de la faillite. Et à ce moment-là, BMW va passer à un cheveu d'être racheté par Mercedes-Benz. Mais il y a un groupe d'actionnaires qui va s'y opposer. Et finalement, c'est Herbert Quandt, un des deux fils du controversé Günther Quandt, qui va donner un souffle nouveau à BMW en changeant d'abord complètement le style de gestion de l'entreprise, qui devient moins hiérarchique et qui met davantage l'accent sur le mérite. Puis c'est aussi Herbert Quandt qui va réorienter la production vers des modèles plus abordables. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que l'Allemagne a été ruinée par la guerre. Là. Et le point tournant, pour la division automobile de BMW, c'est l'arrivée de la Neue Klasse. Et ça, ça veut dire nouvelle classe. En allemand, ça, c'est une nouvelle génération de modèles qui arrive au début des années 60. Et à partir de ce moment, là, BMW est capable de concurrencer Ford, hein, qui a des usines en Europe, il ne faut pas l'oublier, est capable de concurrencer aussi Opel, Mercedes, avec des modèles plus abordables et surtout plus modernes.
C'est incroyable. Des BMW plus abordables que des Ford en Europe.
Aussi abordables. Pas, okay. Pas moins, mais quand même. Mais, ben, on était là aussi économiquement ah ouais. En Allemagne à cette époque-là.
C'est parfait. Ouais.
L'Allemagne est en train de se reconstruire. Tu vois que BMW est en train de se reconstruire aussi. Parce que la première berline de cette nouvelle génération s'appelle tout simplement la BMW 1500. Elle va être suivie par la 1600, la 1800, la 2000, qui sont des évolutions. Et si vous regardez les photos et que vous avez, disons, plus de 40 ans, ça risque de vous rappeler des souvenirs parce que ce sont probablement les premières BMW que vous avez pu voir au Canada. Moi, en tout cas, ce sont mes premiers souvenirs d'une BMW, là, la 2002, hein, qu'on connaît tous, puis un modèle plus gros, plus luxueux, qui était vendu en Amérique sous le nom Bavaria. C'était la série des 2500 et 2800. Si ça vous dit rien, sachez que c'est l'ancêtre de la série 7, la Bavaria. Alors qu'on pourrait dire des modèles 1500 là, jusqu'à 2000, qu'elles étaient les ancêtres de la série 3 et de la série 5. Et d'ailleurs, la 2002 est remplacée en 1975 par la série 3, qui va devenir très rapidement la référence dans le créneau des berlines de luxe compactes. Là. Et la lettre M, on le sait, est très importante chez BMW. Elle désigne la division Motorsport, la division compétition, qui prépare aussi des versions plus sportives, donc plus puissantes, de certains modèles BMW. La première de toutes les M, c'est la M535 de 1980, qui est l'ancêtre de la M5. Et la première vraie M5, elle, va être commercialisée à partir de 1985, la même année que la M3. Et la M3 qui, elle, devient aussitôt hein, un modèle culte chez BMW. Les premières M3 sont d'ailleurs très recherchées par les collectionneurs.
Ouais.
La série 5, elle, va débuter en 1972. La série 7 va s'ajouter en 1977. Et dans les années 80 et 90, hein, rappelle-toi quand on a commencé, toi et moi, comme chroniqueurs automobiles, la gamme de modèles de BMW, c'était assez simple. Hein? Ça se résumait essentiellement à ces trois modèles-là.
Exact.
Série 3, série 5, série 7, plus les coupés de la série 6. Là, par contre, dans les années 90, tu te souviens aussi, Daniel, la mode était aux acquisitions hein, dans l'industrie automobile.
Oui, oui.
Daimler avait racheté Chrysler, Volkswagen a acheté plusieurs marques et BMW a suivi la tendance en achetant, en 1994, le groupe anglais Rover. Un groupe qui comprend la marque Rover, mais aussi Land Rover, Mini et MG. Sauf que le groupe Rover perdait de l'argent puis ça s'est pas amélioré sous le régime de BMW. Au contraire, et BMW a fini par revendre 3 des 4 marques du groupe Rover en 2000 pour conserver seulement Mini. Très bonne idée d'ailleurs.
Et
il
oui.
y a Rolls-Royce qui va également s'ajouter au portefeuille de marques de BMW en 1999. Puis là, ensuite vont arriver les séries 1, séries 2 qui vont s'ajouter là, dans les années 2000 et surtout l'arrivée des VUS et des multisegments qui vont faire exploser la gamme BMW qui compte aujourd'hui là, une vingtaine de modèles. en incluant les deux modèles de la nouvelle gamme de véhicules hybrides et électriques, la gamme i. Mmh. Et justement, je vais vous parler d'un de ces modèles dans le prochain bloc, la i8, qui est une voiture que tu connais bien toi aussi, que tu as pu conduire.
Au niveau coût, le design de cette voiture-là, c'est, j'ai souvent reproché à BMW de ne pas oser avec le design.
Ah, ils ont osé,
et,
hein?
là, cette fois-ci, ils ont été à la limite du possible avec cette voiture-là. Elle est magnifique. Alors, j'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus tard. Merci, Philippe.
À tantôt.
Alors, voilà, réservez vos circuits, on fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel
Boudreau. Et nous voilà de retour. Marc, juste avant d'aller en ligne, tu as une nouvelle pour nous?
Oui, une petite nouvelle, en fait, un peu particulière. Aux États-Unis, il y a un groupe qui se réunit normalement des consommateurs qui est en train de faire remplir une pétition pour exiger un rappel de Chrysler pour sa Pacifica. On dit qu'ils ont dénoté plusieurs dizaines d'arrêts impromptus du moteur au moment où les gens roulent. Évidemment, il n'y a pas eu d'accident majeur encore, mais on en a 50 qui sont, semble-t-il, certifiés d'après l'association et un peu plus d'une centaine d'autres qui seraient sous enquête. Donc, ils demandent bien entendu au gouvernement fédéral d'exiger un rappel de la part de Chrysler et ils demandent au gouvernement canadien et aux Canadiens, si la situation est arrivée, bien sûr, de se joindre à la pétition pour avoir une pétition nord-américaine.
Un peu étonnant parce que c'est de la mécanique connue.
Oui, c'est probablement...
C'est pas une nouvelle génération de moteurs ou de transmission, rien, c'est connu.
C'est généralement, dans ces cas-là, habituellement, ce qui fonctionne pas, c'est des pièces qui ont été défectueuses, c'est genre des groupes de pièces qui ont été défectueuses entre telle date et telle date. Mais il semble que là, jusqu'à maintenant, 50 personnes déjà confirmées, c'est quand même beaucoup. Pour un moteur qui bloque quand tu roules à 50 km/h, ça doit quand même être un peu stressant.
Effectivement, ça doit pas être drôle. Émile est en ligne. Bonjour, Émile.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est à vous.
C'est pour une information sur des VUS. Je regarde pour des VUS et je me demandais votre opinion sur soit un Lincoln MKX ou le Cadillac XT5 et même aller jusqu'à la Audi Q5.
Alors, vas-y, Marc.
Ben écoutez, c'est trois véhicules. Bien sûr, le Lincoln, c'est quelque chose. Moi, je vous avoue que je suis moins... c'est plus un Edge de luxe. Je suis moins favorable au MKX. Je l'ai essayé et il m'a moins impressionné. Le Q5, on en a parlé un peu plus tôt. C'est vraiment un véhicule qui a été complètement remanié cette année, qui est beaucoup plus sportif, beaucoup plus agréable en conduite, beaucoup plus dynamique. Le Cadillac XT5, j'avoue que j'ai un faible, mais j'ai un faible pour la nouvelle version Cadillac, là, le nouveau look, la nouvelle façon dont ils présentent les choses. J'aime beaucoup les nouvelles Cadillac. Alors, je suis peut-être un peu biaisé. Je vous avoue que moi, question confort et avec mon tour de taille, je préférerais la XT5, mais la Q5 est un excellent choix aussi pour des raisons différentes. Cependant, vous devez essayer les deux parce que c'est des comportements totalement différents.
C'est Marc. Moi, ce qui m'a impressionné du XT5 de Cadillac, c'est son économie de carburant sur route. J'ai fait beaucoup de routes avec ce véhicule-là et j'ai été étonné de son économie de carburant, son rendement en général. Je pense que dans les trois, j'aime le Q5. Le Q5 peut-être est un peu plus moderne. C'est une marque Audi qui a un peu plus de prestige là dans la masse. Sauf que le Cadillac, ils ont fait vraiment un beau travail. C'est très moderne à l'intérieur et tout ce que vous allez toucher à l'intérieur du véhicule, c'est facile d'utilisation. Le système Q, pas tout le monde qui l'aime. Moi, je l'aime. J'aime le manipuler. J'aime ça à l'intérieur. Les commandes sont bien disposées. Il y a de l'espace. Sa mécanique est très douce au niveau du Cadillac. Ça l'est aussi pour la Audi. Mes deux choix, c'est le XT5 ou encore le Q5. Encore une fois, le Q5 est un petit affaire plus petit que le XT5. Alors, regardez votre besoin en espace. Mais penchez un petit peu vers le XT5. C'est un rapport qualité-prix qui est étonnant.
Et le point de vue confort, on serait plus confort, il y aurait plus de confort dans l'XT5?
Ben probablement.
Ça dépend de la physionomie, mais moi, je pense qu'il y a plus de confort un petit peu dans le Cadillac. Les bancs sont un petit peu plus rembourrés.
Mais je pense que c'est plus tourné vers ça, Daniel. De toute façon, la philosophie Cadillac est plus tournée vers le confort, alors que la philosophie d'Audi est vraiment tournée davantage vers un petit côté un peu plus utilitaire sport, si tu me permets, même si c'est pas très sportif, on s'entend, là. Je pense qu'effectivement, point de vue confort, vous allez être mieux dans le XT5, en tout cas.
Il n'y a pas grand-chose à reprocher au Q5, là. T'sais, c'est deux véhicules qui sont très, très près l'un de l'autre.
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci. Joël est en ligne. Bonjour, Joël.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission en passant.
Merci.
Moi, je regarde pour un... Moi aussi, c'est dans le VUS, mais c'est un modèle, disons, plus... moins coûteux, si je peux m'exprimer ici. Je regardais pour le nouveau terrain 2018 et je voulais avoir votre opinion dessus, un, et deux, savoir si l'option diesel devrait être considérée ou bien je devrais rester avec le turbo 2 litres avec la transmission 9 vitesses.
Écoutez, moi j'aime bien le terrain diesel, j'aime beaucoup, mais Daniel, lui, a un faible pour l'autre motorisation, alors je pense que c'est beaucoup une question de choix. Je vous avoue que j'ai pas essayé le véhicule assez longtemps non plus pour être en mesure de vraiment vous dire qu'il y a une grosse nuance. Moi, j'ai un faible pour le diesel de base, parce que j'aime l'effet qu'il y ait beaucoup de couple au départ. Le terrain est un très bon véhicule, on l'a bien refait, on l'a vraiment bien amélioré, c'était facile, vous me direz, là, mais là, vraiment, on a vraiment fait un beau travail. Sauf qu'au niveau du moteur, je vais laisser aller Daniel qui l'a essayé un peu plus que moi.
Bien, mon choix personnel s'en va vers le 2 litres turbo. C'est un moteur que j'adore. J'ai été étonné de cette motorisation-là. Tout comme je l'aime beaucoup aussi, le 2 litres dans le Ford Escape. C'est un moteur qui est souple et qui fait à peu près tout de bien. Vous allez rouler de façon normale pour aller au travail, pour aller une soirée. Vous allez avoir un moteur très doux et vous allez avoir besoin d'un peu de remorquage, vous allez avoir besoin de puissance. Vous allez appuyer sur l'accélérateur. Lors d'un dépassement, il va vous donner beaucoup de puissance, beaucoup de souplesse. Alors, c'est un moteur que j'aime beaucoup, ce 2 litres-là. Et comme il est à peu près le même que dans la Cadillac ATS qu'on connaît déjà, qu'on a roulé, on sait que c'est un moteur qui a quand même un bon niveau de fiabilité. Maintenant, le diesel, si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes, pourquoi pas? J'ose croire que ce diesel-là, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas beaucoup d'historique ici en Amérique du Nord, qui a roulé un peu en Europe. Par contre, on nous dit que c'est un dérivé d'un moteur en Europe. Alors, peut-être que ça peut s'avérer intéressant, la version diesel. Et j'avoue que si vous faites du haut kilométrage à la revente, probablement que vous allez avoir un peu plus parce que vous avez une motorisation diesel. Et aussi, il va être un peu plus recherché avec du haut kilométrage. Ça va faire un peu moins peur à du monde. Et le moteur turbo 2 litres, vous le savez, ça fait longtemps que je vous le dis, les moteurs turbo à du haut kilométrage demandent un petit peu d'entretien. Si on se fie au passé, si le passé est garant de l'avenir, faut se dire qu'il va y avoir peut-être un petit peu d'entretien à mettre sur ces moteurs-là. Et quand je parle de haut kilométrage, c'est entre 150 et 250 000 km.
Je vais vous poser juste une autre question. Dans ce cas-là, par rapport à ça, pour moi, ce serait mon premier diesel, si j'irais avec l'option diesel. Est-ce que l'entretien du diesel, comme dans le temps, c'était beaucoup plus cher un entretien diesel, je parle on va dire 15-20 ans, l'entretien annuel ou biannuel qu'on doit faire était très élevé comparé à un moteur standard. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le même cas ou c'est quasiment le même coût que son entretien pour l'entretien?
Bien, là, la question est bonne. Ça, c'est intéressant. Il y a quelques années, je vous aurais dit, le diesel coûte beaucoup plus cher d'entretien qu'un moteur à essence régulier. Maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de nettoyage à faire du moteur, on faisait justement, là, le diesel était très, était pas propre, là, le diesel. Alors, les moteurs s'encrassaient et on devait les nettoyer régulièrement. C'est moins vrai aujourd'hui. Par contre, les moteurs à essence turbo, on ajoute des composantes. On ajoute de l'entretien aussi. Donc, non, le turbo n'a pas d'entretien, mais le turbo, à long terme, va vous donner, sur 200 000 km, d'après moi, vous allez avoir les mêmes coûts d'entretien entre un moteur diesel puis un moteur à essence muni d'un turbo.
Mais le moteur diesel est muni d'un turbo.
Oui. Le moteur diesel est muni d'un turbo, mais avant, il y avait ce désavantage-là, ce qui faisait qu'un moteur atmosphérique régulier demandait beaucoup moins d'entretien qu'un moteur diesel. Alors, le moteur à essence est venu rejoindre un petit peu le moteur diesel.
Bon, ben écoutez, je vous remercie pour toutes ces belles informations.
Merci beaucoup. Marc, il nous reste une ou deux minutes. As-tu une nouvelle pour nous rapidement?
Ouais, est-ce que tu as envie de te lancer à l'assaut des montagnes, mon cher? Si oui, GMC a peut-être le camion pour toi. Ils viennent de dévoiler. On l'avait déjà vu là, mais ils viennent de le ramener. Ça s'appelle le All Mountain GMC Sierra. C'est un véhicule qui est parti basé sur le Sierra 3500 qu'on a monté et sur le 2500 HD plutôt, excuse-moi. Et c'est monté à partir de grosses chenillettes. L'idée en fait, c'est que GMC est le fournisseur officiel de Vail Resort, les centres de ski. Et ils ont créé des camionnettes pour aller dans les pentes de ski. Celui-là va être à Vail. Il y en a des pareils à Whistler, par exemple. On espère en vendre aussi au Mont-Tremblant. Donc, un petit camion pour monter les montagnes plutôt qu'un télésiège.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'arrête pour la pause nouvelle et on vous revient rester avec nous.